Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire dans les Corinthiens, mais avant, j'aimerais lire un verset. Je pense que quelqu'un a besoin de ce verset. 1 Samuel chapitre 2, c'est Dieu qui parle à Élie parce qu'il n'est pas sérieux avec la parole, malgré le fait que ce soit le sacrificateur principal d'Israël. Et Dieu va lui dire quelque chose. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Et je pense que quelqu'un a besoin de cette parole. Quelqu'un qui n'est pas sérieux avec la parole. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Regardez bien ce que Dieu dit, ce qu'il a dit. Il le dit toujours et ça demeurera pour l'éternité parce que la parole est éternelle. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est une loi du royaume, ça. Si on honore Dieu, le Seigneur nous honore. Si on n'honore pas Dieu, le Seigneur ne nous honorera pas. Ce soir, nous allons lire donc dans les Corinthiens. Il faut bien comprendre ça. Beaucoup de gens s'imaginent que ce n'est pas grave. Si vous n'honorez pas Dieu, le Seigneur ne vous honorera pas. Vous voulez que Dieu vous honore ? Eh bien, honorons la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 7, jusqu'au verset, du premier verset au verset 24. Vous savez que nous faisons une étude, justement, sur le comportement du chrétien. Et c'est ce que nous voulons, hein, que nous apprendre comment nous devons nous comporter dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de maîtrise de même, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé circoncis ? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. Voilà, c'est des chapitres qui sont importants. C'est des questions qui ont été posées, puisqu'au début, il est dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Donc, l'apôtre Paul recevait régulièrement des lettres de croyants de telle ou de telle église avec des questions qui préoccupaient les chrétiens. Et c'est tout à fait normal que nous nous posions des chrétiens. C'est la preuve, le premier verset est la preuve qu'il faut poser les questions dans tous les domaines de la vie. Il y en a des questions qui se posent quand on se convertit, mais même une fois qu'on est converti, on continue à s'en poser des questions. Il y a des gens qui disent « Ah non, moi j'attends qu'on devine. J'attends que mon mari devine. » Moi, je l'ai entendu, c'est dans mon bureau. « Mon mari, je pensais qu'il devinerait. Quels sont mes besoins ?» Non, mais sérieusement. Des chrétiennes, hein ? Moi, je pense qu'il faut parler. Il faut dire ses besoins à sa femme et que la femme également pose les questions à son mari. Oui ou non? Ben oui, c'est important. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut tout spiritualiser. Il faut savoir poser les questions, réclamer, faire connaître ses besoins et ses attentes. C'est important. On n'est pas là, dit, tu devrais deviner, tu aimes le Seigneur. Non, moi je vous assure, si vous saviez tout ce que j'entends, ça me fait mal au cœur. Je crois que dans le royaume de Dieu, on parle. Moi, vous savez, j'avais fait une étude sur la vie affective, la vie sexuelle, et je vous avais parlé des trois premiers versets du Cantique des Cantiques. C'est la Sudamite qui parle, elle dit « Mais qu'il me baise des baisers de sa bouche ». Vous vous rappelez ce verset? Bon, moi, je veux bien spiritualiser tout au maximum, mais quand même, ça prouve qu'elle demande. Et je pense, mes frères et sœurs, que ces choses, elles ont été écrites avec beaucoup de pudeur. Il faut parler au-delà de ce qui est écrit, ça c'est clair. Il faut rester dans le fait d'honorer toujours sa parole. Mais quand on lit certaines choses, le Saint-Esprit nous montre exactement ce qu'il en est. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. Et craint que le premier verset nous montre qu'il faut faire connaître les besoins à son conjoint. C'est important dans la vie de parler. C'est important de. On peut pas parler de tout à n'importe qui, mais s'il y a bien quelqu'un avec qui on peut parler, c'est bien avec son conjoint. Oui ou non? Et beaucoup de foyers sont en vrac, beaucoup de croyants, on va le revoir, ont divorcé parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de partager les choses qu'ils auraient dû partager. On le voit, même les chrétiens écrivent à Paul, écoute, on a des questions à te poser à propos du mariage, à propos de la relation sexuelle, on se pose des questions. Et Paul leur répond, bien sûr, avec intelligence, avec pudeur, mais il répond. Alors Paul n'était pas marié quand il a écrit aux Corinthiens. Alors mais vous savez, est-ce que Paul aurait pu être marié? Oui. Pourquoi? Parce que moi je l'ai lu dans les commentaires, dans les livres de théologie, parce que pour être dans le Sanhédrin, tous les membres du Sanhédrin étaient mariés. Enfin, je dis ça, c'est pas important, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est quand même la vérité. Tous les membres du Sanhédrin étaient mariés. Donc Paul a dû être marié. Alors est-ce qu'il était veuf? Je ne sais rien. Mais une chose est certaine, Paul a dû être marié et il devait quand même bien comprendre les choses et les questions qu'on lui posait. Ça, c'est secondaire. Mais je dis ça parce pour expliquer que quand même Paul comprenait certaines choses. Paul donne des conseils. Il conseille, par exemple, verset 1er, à l'homme de rester célibataire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est des sujets, ça. C'est des débats dans les églises qu'on peut avoir. Il conseille à l'homme de rester célibataire. Est-ce que Paul pensait que le mariage était une mauvaise chose? Non. Mais il conseillait à un homme de ne pas toucher de femme. Pourquoi? Alors, il faut, vous savez, moi je vous conseille de vous nourrir de l'enseignement de M. Olay. Parce que M. Olay vous enseigne toujours à tenir compte du contexte. Le contexte, il est quoi? Regardez au verset 26. On ne l'a pas lu, mais ça ne fait rien. Au verset 26, Paul parle de ce qui se passait déjà à l'époque. Vous savez, c'était difficile à l'époque, il y avait la persécution dans l'Église. Et voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Verset 29, pardon. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça a été écrit il y a presque 2000 ans, et ça nous indique combien il faut faire attention dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est facile à comprendre. Il y a des calamités qui arrivent, verset 26, vous avez vu? Je ne sais pas si on se rend compte, à cause des temps difficiles qui arrivent. Il y a des chrétiens qui se sont embarqués dans des situations. Ils n'ont pas calculé les situations dans lesquelles ils se mettaient. Et quand c'est écrit ces choses, il faut faire attention. Vous croyez que c'est sérieux, la parole de Dieu? Ils disent, oh, on verra bien, c'est pas grave, Dieu a dit ça. Mais on l'a entendu dans la prophétie tout à l'heure. Le vrai problème de l'Église, c'est que les gens ne se repentent pas. Vous avez entendu le don spirituel tout à l'heure? Repens-toi. Et Dieu parle, il amène les gens à réfléchir. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps compliqués. Et il faut faire attention avant de vouloir fonder un foyer. Il ne faut pas fonder un foyer parce qu'on a tout pris besoin d'amour. Moi, je veux quand même. Mais déjà, ils ne sont pas prêts à se marier. Le résultat, c'est que les mariages sont en vrac. Et quand les choses sont difficiles, eh bien, il vaut mieux pas se marier. Est-ce que c'est simple quand même? Oui ou non? Ouais. Maintenant, mais vous savez, écoutez-moi, ça fait 32 ans que je suis pasteur, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de gens que j'ai vus, quand j'entends tout ce que j'entends, parce que les gens n'ont pas tenu compte du contexte dans lequel ils étaient. Et voilà, bonjour, je ne vais pas développer chaque verset, mais c'est pour vous expliquer qu'il faut tenir compte du contexte. Après, Paul revient sur, l'importance qu'un homme doit avoir une femme. C'est un besoin naturel. Est-ce que c'est normal qu'un homme ait besoin d'une femme? Est-ce que par contre, c'est normal de tenir compte des contextes difficiles, mais est-ce que c'est naturel et normal qu'un homme ait besoin de se marier et également qu'une femme ait besoin de se marier? Est-ce que c'est normal? Bien, c'est normal aussi, également. Dieu veut qu'un homme choisisse une femme chrétienne. Je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus. C'est écrit, je ne sais pas combien de fois, qu'il ne faut pas qu'un homme se mette avec une infidèle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, quand un homme se marie avec une femme qui n'est pas chrétienne, il se marie avec une femme qui a pour père le diable. Oui ou non? Et quand les gens, oh non, mais moi je la convertirai. Hein. Non mais tu ne me connais pas moi. Elle viendra à l'église. Hein. Écoutez, on n'arrive même pas à se changer soi-même. Qu'est-ce que vous voulez changer quelqu'un d'autre? Mais moi je l'ai entendu, mais monsieur Gaud, moi je vous dis qu'elle se convertira. Hein. Ouais. Et bien, vous savez ce qui est arrivé, 99 fois sur 100, c'est exactement l'inverse. C'est le pécheur qui a entraîné le chrétien. Je ne dis pas une fois sur deux, je dis 99 fois sur 100. Et quand Dieu dit qu'un fidèle ne soit pas se mettre avec un infidèle, mes frères et sœurs, il faut honorer la parole. Ah, après je regrette, ah, si j'avais su, eh oui. Mes frères et sœurs, après le besoin il est normal. Un homme, il choisit une femme et il veut rester avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que c'est normal, ça, d'avoir qu'une seule épouse? Eh oui, c'est normal. C'est sérieux, cette affaire. Un chrétien, il doit... Vous savez, je vous le dis parce que, bon, avec le temps que j'ai passé à m'occuper des couples, je vais vous dire quelque chose. Tous les couples qui ont divorcé, j'en ai connu, hélas. Vous savez, ce que tous m'ont dit, après des années que ceux avec qui j'ai gardé contact, tous m'ont dit, si j'avais su, j'aurais sauvé mon couple. Tous. Tous ceux avec qui on garde le contact, si j'avais su, j'aurais cherché à sauver mon couple. Je ne vous demande pas, s'il y aurait 3 ans que je suis pasteur, je ne pourrais pas vous le dire, mais ça fait 32 ans. Et c'est certainement le problème qui revient le plus souvent. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une femme, Dieu nous a donné un conjoint, et il faut le garder jusqu'à la fin. Alléluia. Et Dieu nous bénit, et c'est une bénédiction. Si on devait divorcer chaque fois qu'il y a un problème, tout le monde divorcerait. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non mais sérieusement, on a tous des problèmes. Mais c'est sûr que quand les gens sont égoïstes, moi je dis aux jeunes, si vous êtes égoïste, ne vous mariez pas. Ça je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, et ceux qui ne m'ont pas écouté ont dit, mais vous avez bien raison. Dieu ne veut pas que les hommes vivent n'importe comment. Ces chapitres, ils sont là. On a vu la dernière fois, c'était encore plus important. Dieu ne veut pas que les gens vivent dans l'inconduite, la débauche, la fornication. Dieu interdit l'inconduite. On l'a lu. Si vous avez un doute, vous lisez le chapitre précédent. Mais il y a des besoins. Il y a des besoins physiques, il y a des besoins psychiques, il y a des besoins spirituels, il y a des besoins intellectuels, mais il y a des besoins physiques également. Et Dieu a voulu répondre à ses besoins physiques par le biais du mariage. Et chaque pays a des lois sur le mariage. En France, il faut passer par les actes civils, etc. Vous savez comment ça se passe en France. En Afrique, dans certains pays, c'est un mariage coutumier. Chaque pays, parce que des fois, on m'en sort de pas mal, hein. Chaque pays a ses lois sur le mariage. Et on est marié lorsqu'on se soumet aux lois du pays en vigueur. Ce n'est pas parce qu'on passe à l'église qu'on est marié. Dernièrement, il y a un chrétien qui me disait, mais il est parti en Afrique se marier avec une femme, ils sont passés par le lieu religieux, mais ils ne sont pas passés par la mairie. Est-ce qu'ils sont mariés? Non, ils ne sont pas mariés. Ils sont dans le concubinage. Et le gars, il se fait croire qu'il est marié. Et je peux vous assurer, je voulais le prendre l'article, je ne l'ai pas pris parce que il me fallait le rechercher en vérité, mais si vous allez sur le code pénal, vous allez voir que dans les articles des mariages religieux, un imam, un curé, un prêtre, un pasteur n'a pas le droit de célébrer un mariage dans un lieu de culte sans passer par la mairie, qu'il est passible de prison et d'une amende. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas compris encore ça. Le mariage, c'est le mariage civil. Après, si quelqu'un aime Dieu et qu'il a besoin et qu'il veut vraiment passer par l'église parce qu'il veut la bénédiction du Seigneur, vous voyez, ben c'est très, 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 très bien. Mais quelqu'un qui passe par la mairie, il est marié devant Dieu. Quand il dit oui, il est marié devant Dieu. C'est important ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, moi, le plus important, c'est l'église. Non, je suis désolé, mais le plus important, c'est la mairie. Il faut passer d'abord par la mairie. Et si vous, ça arrive de plus en plus. En France, il y a plein d'imams qui marient des gens sans passer par la mairie. Ils ne sont pas mariés. C'est un sujet, ça, mais je pense que c'est bien de le dire. Alors, Dieu a créé le mariage. C'est Dieu qui a voulu le mariage. C'est une bénédiction, le mariage. Autant le concubinage, l'inconduite, c'est une malédiction, autant le mariage, c'est une bénédiction. Et Dieu a créé le mariage et les relations intimes, sexuelles, dans le cadre du mariage. Ce désir, il est sain. C'est tout à fait normal. Moi, quand j'ai envie de me marier, moi, j'ai envie d'avoir une femme, ben, c'est normal. Ne faites pas un obsédé sexuel parce que vous avez envie de vous marier. C'est tout à fait normal d'avoir envie de se marier. Mais il faut le faire intelligemment et ne pas se précipiter. Moi, ce matin, en préparant cette étude, il m'est revenu, bien sûr, plein de situations de gens qui ont fait la comédie, de gens qui ont fait semblant de se convertir. Je l'ai vu ici même, ici plusieurs fois, ici, en 17 ans. Des gens qui ont fait semblant de se convertir, qui ont pris le baptême pour avoir une femme. Ben oui. Et ils n'ont pas pris le temps de vérifier s'il y avait une véritable conversion. Et après, je peux vous dire qu'on le paye cher. Mais les gens, ils n'écoutent pas. Les gens, ils n'écoutent pas. Parce qu'il y a des gens, ils viennent nous voir. Monsieur Go, je dis, mais ça marche comme ça. Dieu m'a dit que j'allais me marier avec Albertine. Albertine. Dieu m'a dit que j'allais me marier avec Albertine, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais vous savez, les gens, ils viennent vous mettre, ils vous obligent à leur dire. J'ai dit, écoutez, si Dieu vous l'a dit, ben faites-le. Vous voyez comment les gens y sont? Elle est convertie, Albertine? Ah non, elle n'est pas convertie, mais comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Eh bien, mariez-vous. Mariez-vous. Après tout, on est. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut empêcher, refuser? On n'est pas des gourous, on est des conseillers. Qui donnent des conseils par rapport à des conseils, par rapport à des ordres de Dieu également. Mais si quelqu'un veut faire une erreur, eh bien qu'il la passe. Hein. Mais que de larmes. Si vous saviez, moi, tous les gens qui m'ont dit, Monsieur Go, pardon, pardon. Mais ça me fait mal au cœur, parce qu'en plus, les gens, ils n'ont pas à me demander pardon, à la limite. Ils ont demandé pardon au Seigneur. Quand Dieu demande quelque chose, il faut arrêter de dire « Dieu m'interdit ». Ce n'est pas vrai. Dieu ne nous interdit rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu, il sait ce qui est bien et il sait ce qui est mal. Et les jeunes, si vous voulez vous marier, mais moi je sais que moi je n'aurais pas pu me marier avec une inconvertie. Je vous le dis franchement. C'est une parenthèse. Ça, c'est biblique ce que je dis. Moi je n'aurais pas pu m'attacher à quelqu'un qui a pour père le diable. Je vous le dis franchement comme je le pense. Quand je vois M. Go, je vous donne ces exemples. Maintenant que mon mari se moque de moi, il interdit aux enfants de prier, il ne veut pas qu'on rende grâce à table. Monsieur Go, si vous saviez ce que je suis en train, il me traite de folle, d'andouille, parce que je prie, parce que je vais à l'église. Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il est dans les ténèbres. Nous aussi, on a été dans les ténèbres. Mais quand Dieu demande quelque chose, oh, il y en a marre de ce Dieu qui nous interdit, il ne nous interdit pas. Si vous voulez faire... Vous avez vu Balaam, il n'a pas interdit Dieu. Il l'a conseillé, il l'a aidé. Et puis Balaam, il a fait un choix. Tu veux y aller? Eh bien, vas-y. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Balaam, vas-y hein? Ne vous imaginez pas que moi je suis en train de dire, il faut pas. Non, je suis en train de vous dire que Dieu bénit le mariage, que Dieu bénit les relations sexuelles, à une seule condition, que ce soit dans le cadre du couple. Voilà comment Dieu bénit le mariage. Et tout ce qui se passe en France, et c'est rien, à côté de ce qui va arriver. Parce qu'on a voté des lois abominables en France. Et en plus, hier, j'entendais que notre cher chef d'État disait qu'il fallait continuer à être modèle dans le monde. Mais je peux vous dire qu'on va le payer cher, ça aussi. Il y a des désirs sains, il y a des désirs malsains. Et il faut faire en sorte que nos désirs soient sains. Je suis veuf, je suis un jeune homme, et bien je veux me marier, mais je vais le faire comme il faut. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y en a qui pensent qu'Adam, il a péché quand il a eu des relations sexuelles avec Ève. D'ailleurs, presque toutes les religions le disent ainsi. Adam n'a pas péché lorsqu'il a couché avec Ève. Et Adam, il a péché parce que Dieu lui avait demandé de garder le jardin. Vous vous rappelez que Dieu lui avait demandé de garder le jardin. Et qu'est-ce qu'on voit dans le jardin? C'est pour ça que Dieu s'est adressé à Adam. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Bon, ça, c'est un peu difficile, j'avoue, à comprendre. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le jardin avec Ève? Qui c'est qui discute avec Ève dans le jardin? Le serpent, c'est un animal des jardins. C'est un animal des champs. Et il était dans le jardin. C'est ça, son péché. C'est qu'il n'a pas gardé le jardin. Vous le relirez dans la Genèse, au chapitre 4, si je ne me trompe pas. Ça s'est passé dans le jardin. Et c'est pour ça qu'il a commis un péché. Il n'a pas gardé le jardin. Vous savez, Dieu compare notre cœur à un jardin. Oui ou non? Et il faut le garder, notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce verset. Mais celui qui m'honore, je l'honorerai. Et ceux qui me méprisent seront méprisés. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, à la fin, ne venez pas me discuter. Oui, mais monsieur Gou, moi, je crois. Ça ne sert à rien. Moi, je vous dis une chose. Dieu bénit le mariage. Et il ne bénira jamais ce qui est en dehors du mariage. Je parle au niveau des relations sexuelles. C'est important, mes frères et sœurs. Il faut que nous le comprenions. Paul donne des instructions. Comment un homme et une femme doivent se comporter après dans le cadre du mariage. Vous avez vu, on le relit. Un homme, il doit avoir de la considération envers sa femme. Vous voyez, pour éviter la débauche, vous voyez, il le sait le Seigneur. Il le sait. Pour éviter la débauche dans les relations sexuelles en dehors du mariage, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Moi, j'ai souvent entendu des hommes qui me disent « Mais moi, je ne peux pas rester seul. » Et bien, j'ai dit « Ils l'ont fait. » Ils ont rencontré une épouse, une chrétienne. Mais il y a des choses, il y a beaucoup de bonnes choses. Moi, j'ai vu dans toutes les églises où je suis passé, ce genre de situation, des gens qui souffraient du célibat. Il y a des gens qui le vivent bien. Il y a des gens qui le vivent mal. Mais il faut le faire comme il faut, mes frères et sœurs. Et pas parce qu'il y a un besoin. Verset 3, « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que la femme agisse de même envers son mari. » Voyez. Le mari doit respecter sa femme dans tous les domaines, et dans le domaine, bien sûr, de la sexualité. Et vice-versa. Vous avez vu au verset 4, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Voilà. Alors, il faut le dire, mais ça, on peut en parler, c'est sain, puisque la Bible en parle. Est-ce qu'on peut parler de ce que la Bible parle? Oui. Après, il ne faut pas rajouter. Il y a des moments où une femme peut avoir envie de s'unir avec son mari. Et le mari, moins. Et vice-versa, il peut y avoir des moments où le mari a envie de s'unir avec sa femme et la femme n'a pas envie. Bon, mais c'est sûr que l'idéal, c'est que les deux aient envie ensemble. Ça, c'est l'idéal, c'est vrai hein? C'est vrai, mais c'est, il faut le comprendre comme ça. Mais voyez, on voit que Dieu demande qu'il y ait du respect, que chacun fasse des efforts. C'est merveilleux le couple, oui ou non? Mais moi, ça fait combien que je suis marié? 200, non, ça fait, 30, ça fait 34 ans. Mais moi, je trouve que c'est une bénédiction le couple. Des fois, on me pose la question, monsieur, est-ce que vous êtes toujours amoureux de votre femme? Ben, je dis, ben oui. Je crois que l'amour, c'est comme un feu. C'est exactement comme un feu. Un feu, ça s'entretient. Ça s'éteint très vite, un feu. Mais ça s'entretient. C'est une bénédiction, le mariage. Moi, je vous assure, hein, ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et il faut le dire. Et voyez, là, dans ces quelques versets, vous avez des conseils. Ben, moi, je vais faire des efforts. Pour plaire à ma femme, et je demande à ma femme de faire des... Et on en parle de ces choses avec mon épouse. Pourquoi? Eh bien parce que quand on s'aime, on se... Est-ce qu'on s'aime? Quand on s'aime, on se respecte? Oui ou non? Et voilà, quand on s'aime, on a besoin... Moi, j'ai besoin de parler avec ma femme de plein de choses qui concernent notre vie intime, qui concernent l'église, qui tous les sujets. Avec ma femme, on passe des heures et des heures à parler. Mais c'est important de parler. C'est important de dire, écoute, voilà, il y a ça. Et moi, je vous assure, moi, quand vous réétudierez, vous réécouterez les... Parce qu'il y a des gens qui avaient été presque étonnés par l'étude que j'avais faite sur le Cantique des Cantiques. Mais moi, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir parler de tout. Moi, quand j'entends un homme qui dit, oh, mais moi, ma femme, elle n'a pas besoin de savoir. Hein. De toute façon, elle ne comprend rien. Quand on entend ça dans le couple, moi, je trouve que s'il y a bien quelqu'un qui doit savoir, c'est bien son conjoint. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une épouse, c'est une aide. Un mari, c'est un aide. Et moi, je pense que plusieurs d'entre nous l'avons vérifié. Moi, je l'ai vérifié quand j'ai fait l'AVC. Je peux vous dire que j'étais vraiment en braque. Eh bien, je bénissais Dieu pour l'aide que Dieu m'a donnée. C'est là qu'on voit. C'est dans les conflits. L'autre jour, il y a un frère qui m'appelait. Il m'a dit, Sego, j'ai rencontré une femme. Elle est formidable. Elle est formidable. J'ai dit, ben, c'est bien, il y en a des femmes formidables. Elles ne sont pas toutes prises encore. Alors, j'ai dit, vous avez eu un conflit avec elle? Non, pas encore. Alors, vous saurez si elle est formidable quand vous aurez un conflit. Mais est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est dans les difficultés qu'on voit comment les gens se comportent. Quand tout va bien, tout va bien. Mais on voit vraiment les gens dans les problèmes. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. Lorsque l'on fréquente. Moi, vous savez, des fois, dans les églises, il y a des gens, ils ne sont pas fins. Et il y a la pression de l'église, ça existe. La pression de l'église, la pression de la famille. Ils voient deux jeunes ensemble. Ah, vous êtes toujours assis à côté. Allez, il y a quelque chose, non? Allez, vous allez bientôt vous marier. Il faut vous marier. Et moi, j'ai vu des églises où on a mis la pression sur les jeunes. Mais moi, je trouve que c'est bien de prendre du temps. Moi, ça ne me gêne pas que deux jeunes fréquentent dans l'église. Deux jeunes, un garçon et une fille. Hein, parce qu'aujourd'hui, non mais, il faut le dire aujourd'hui. Ça vous fait rire, mais quand on parle de couple, il faut dire un homme et une femme. Moi, ça ne me gêne pas que deux jeunes fréquentent. Et qu'au bout d'un an, ils disent, voilà, ben, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est gênant? Ben, au contraire. Et c'est ça la beauté, de prendre du temps pour découvrir comment est quelqu'un. Toutes ces choses, elles doivent rentrer, elles se déduisent de ces enseignements que l'apôtre Paul indique dans sa parole. Donc, ce texte nous dit aussi qu'il faut savoir faire des efforts dans le couple, dans la vie sexuelle, que si l'un demande de l'affection, eh bien, il faut que l'autre le lui accorde. Vous savez, je pense qu'il y a cette intersoumission. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, la fin du verset 4. Vous savez, une femme, est-ce qu'une femme doit se soumettre à son mari dans ce domaine? Est-ce qu'un mari doit se soumettre à sa femme dans ce domaine? Eh oui. Eh oui, c'est ça. D'ailleurs, moi j'ai souligné la fin, le verset 5, « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est, comment ? D'un commun accord. » Moi, franchement, moi je trouve que ces trois mots, ils sont formidables. Faire les choses d'un commun accord. On en parle. Mais c'est pour l'argent. Il y a des couples qui divorcent à cause de l'argent. Il y a plein de couples qui divorcent à cause de l'argent. Des problèmes d'argent. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses d'un commun accord? Mais voyez combien... Parce qu'il y a la communion, il y a la communion avec Dieu. C'est vrai, la communion ou la communication avec Dieu, c'est pour ainsi dire le même mot. Mais il doit y avoir la communion avec son conjoint. Moi, je sais qu'avec ma femme, on discute de tout par rapport à nos dépenses. Et on s'entend. Moi, quand je me suis marié, quand on allait se marier, ma mère, elle attrape Isabelle, elle lui dit, « Qui c'est qui va gérer l'argent ?» Et Isabelle, là, pourquoi? Et bien parce que, elle lui dit, parce que Gérard, il a un trou dans la main. Vous connaissez l'expression de la main percée? Alors, il a dit, je te conseille de gérer l'argent, si vous voulez vous en sortir. Et je lui dis, mais d'accord, c'est Isabelle qui s'occupera de l'argent. Et je peux vous dire qu'Isabelle, elle est pas avare, elle est économe. Et ça a été une bénédiction, on a fait ça d'un commun accord. Moi, quand je vois des couples qui se disputent pour 1000 euros, qui divorcent, je dis 1000 euros, mais vous avez compris ce que je voulais dire, franchement. Parce qu'il n'y a pas cette intelligence d'un commun accord. C'est valable dans la relation intime, c'est valable, je crois, dans tous les domaines. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. Moi, je ne sais pas. Moi, je bénis Dieu pour sa parole. Si on était intelligent, oui, intelligent, selon Dieu, je ne parle pas d'intellectualisme, je parle d'intelligence spirituelle, de sensibilité, eh bien, on ferait les choses de cette manière. Oui, c'est normal de rechercher l'amour de sa femme. C'est normal qu'une femme recherche l'amour de son mari. Et que quand on voit ce qui s'est passé dans des couples à cause des refus, je vais le punir, mon mari. Je ne couche plus avec lui. Il m'a fait un tour d'une crasse. Eh bien, je vais le punir. Vous croyez que c'est comme ça qu'on sauve son foyer? Mais moi, je l'ai vu, ça. Écoutez, non, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous trouvez peut-être que je suis un peu terre à terre ce soir. Mais mes frères et sœurs, on a vu des couples qui ont divorcé parce que madame ou monsieur ont voulu punir le conjoint. Je ne sais pas si... Enfin, moi, je trouve que c'est dommage. Vous trouvez pas que c'est dommage? Alors dans le monde, je ne sais pas comment ça se passe, ils sont dans les ténèbres. Mais dans le royaume de Dieu, je pense qu'on devrait être intelligent. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Autrement dit, ne vous refusez pas mutuellement la joie de l'intimité sexuelle. C'est ça que ça veut dire. Alors après, voyez, c'est ça l'équilibre. D'un côté, il dit ne vous privez pas l'un de l'autre. Faites les choses d'un commun accord. C'est pour ça que là, le meilleur moyen, c'est de bien parler entre dans le couple. Et puis après, il dit, voyez, si ce n'est pour un temps, afin de vaquer à la prière, voyez, puis retourner ensemble. Voyez, on peut très bien s'abstenir d'actes sexuels parce que, ben, on est préoccupé par d'autres choses, parce que même la vie spirituelle, est-ce que ça peut arriver qu'on ait besoin de passer du temps dans la prière? Ça peut arriver qu'il y ait des activités qui nous éloignent un peu de notre conjoint. Mais il faut faire attention. Afin que Satan ne nous tente pas en raison de votre manque d'inconduite. Moi, quand j'entends des fois, ben moi je suis parti bosser, j'ai trouvé un poste là pendant 6 mois, je gagne 5000 euros par mois, mais voilà, j'ai ma femme, je ne vais pas la voir pendant 8 mois. Moi, je ne sais pas si c'est sage pour du pognon, excusez-moi l'expression. Vous croyez que c'est sage, ça? Je crois qu'il faut être intelligent. C'est écrit. Il y a des choses qui peuvent nous séparer, mais pas longtemps. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise de soi, il y a des gens qui... Vous voyez? Voilà, c'est quand même écrit. Tout le monde n'est pas fort. Il y a des gens qui sont vite en difficulté, vite saisis par des convoitises. Voilà. Et mes frères et sœurs, si tout le monde adoptait cette règle, je peux vous dire que dans les églises, on ne verrait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et si les gens avaient pris le temps de partager ce qu'on partage depuis demi-heure, laissez-moi vous dire que les choses n'en seraient pas là. Oui, il faut être sérieux, mes frères et sœurs. L'argent, il ne faut pas que ça divise les couples. Moi, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu quand j'étais en Polynésie. Le nombre de gendarmes qui sont venus comme ça pour de l'argent. Moi, j'ai presque vu tous les couples exploser en Polynésie. Tous les couples de Français. Vous savez, ça fait mal au cœur quand même. Hein, à cause des chrétiens, je parlais, qui n'ont pas respecté ces choses-là. Ouais. Faisons attention. Les mariages, c'est une bénédiction. Il faut veiller l'un sur l'autre. Versets 7 à 9. Je voudrais que les hommes soient comme moi, mais chacun tienne de vous un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà, ça s'appelle le bon sens. C'est un conseil. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez veuf demain ou veuve? Qu'est-ce que vous feriez? Je crois qu'il faut vraiment se tenir devant Dieu quand même. Moi, j'ai vu de ces choses. C'est pour ça que, vous voyez, il y a du bon sens. Mes frères et sœurs, je pense que la communion avec Dieu, la communion avec sa femme, c'est une bénédiction. Mais je crois que la communion avec son conjoint est améliorée par la communion que l'on peut avoir avec Dieu. C'est pour ça que c'est une bénédiction d'améliorer sa communion avec Dieu. Ah non, moi ça, je ne dis pas ça à mon mari. Je le dis, il y a des couples qui ne discutent pas. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut veiller. Parce que quand même, le monde nous regarde. Tout à l'heure, je discutais avec un monsieur, un chrétien, il a divorcé. Son père est dans le concubinage. Son frère chrétien est dans le concubinage. Vous vous rendez compte? Des chrétiens. Les enfants là-dedans, les petits-enfants, je ne sais pas ce qu'ils doivent penser. Mes frères et sœurs, je crois qu'un chrétien, il cherche à rendre un bon témoignage. C'est important pour vous de rendre un bon témoignage? Est-ce que c'est important pour vous Est-ce que vous êtes fier de rendre un bon témoignage? Vous allez me dire, ouais, moi j'ai tout planté, j'ai fait que des... Oui, bon, c'est vrai que Dieu pardonne. Mais je crois quand même que... Moi, c'est important pour moi que mes enfants soient fiers de moi. Je ne sais pas, en fait, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil quand même, non? Non, c'est le souci de s'appliquer à rendre un bon témoignage. Et ces chapitres-là, lisez-les. Même si vous fréquentez, vous pouvez les lire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vous assure. Mais si vous saviez tout ce que j'ai entendu, le temps me manque. Mais les gens ne cherchent pas cette compatibilité. Parce que je crois qu'il doit y avoir dans le couple une compatibilité. Compatibilité physique. On doit se plaire.
Moi, j'ai vu un jour une femme qui me dit, moi, là, moi si mon mari ne me plaît pas, c'est pas grave, ça m'est égal. Mais s'il ne vous plaît pas physiquement, non, ça m'est égal, il s'agit qu'il soit chrétien. Donc, s'il est moche, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'ai dit, mais vous soyez sérieuse. Et vous savez pourquoi elle m'avait dit ça? Je l'ai travaillé. Elle me dit, parce qu'il y a une chrétienne qui m'a dit, cette jeune fille, tu te marieras avec tel gars. Et ce gars ne lui plaisait pas. Mais elle croyait qu'il fallait qu'elle se marie parce qu'une chrétienne lui avait dit, tu te marieras avec ce gars. Ce gars ne lui plaisait pas, rien du tout. Et quand j'ai discuté avec le gars, j'ai dit, mais vous allez vous marier avec elle? Et oui. J'ai dit, mais vous rêvez? Vous l'aimez? Ils étaient là, ils n'ont pas répondu. J'ai dit, est-ce que vous avez envie de vous embrasser? Non. Non, mais ça vous fait rire. Mais ils étaient à 3 mois du mariage. Et bien sûr, la grâce de Dieu a fait qu'ils ont compris qu'ils étaient sous la pression d'une chrétienne. Moi, je pense que... Non, mais c'est vrai que ça vous fait rire. Mais moi, ça me fait peur, moi. Parce qu'il faut faire les choses par conviction, et je crois qu'il doit y avoir de la compatibilité intellectuelle, de la compatibilité spirituelle surtout, de la compatibilité physique, ce sont des choses importantes. Est-ce que mon mari doit me plaire? Mais oui, il va vous plaire. Enfin, je vais quand même avancer. Après, du verset 10 au verset 24, mais je ne sais pas s'il faudrait refaire une étude sur le couple, je pense, peut-être. Je l'ai déjà fait, peut-être qu'il faudra le refaire. Du verset 10 au verset 24, il parle de 3 situations qui peuvent se présenter chez un chrétien. Il parle de ceux qui sont croyants, mais qui sont mariés avec un incroyant. Ça peut arriver, ça. Ce n'est pas un chrétien qui se marie avec une non-croyante. C'est que dans un couple d'incroyants, un se convertit. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça ne cautionne pas le mariage avec un inconverti. Écoutez, quelqu'un qui lit, il a vite compris que c'est ce que j'explique. Donc, cette affaire. La deuxième, des croyants qui sont circoncis et des croyants qui sont esclaves. Alors, au sujet d'un chrétien qui a une compagne incroyante, ou l'inverse. Il dit que c'est un ordre, et non pas un conseil, que la femme ne se sépare pas de son mari. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Donc, ça commence par un ordre, que le mari ne répudie pas sa femme. Donc, un croyant, un chrétien, quand il est croyant ou une croyante, il va chercher à gagner son couple, à rester avec sa femme. Est-ce que c'est important ça? Oui, parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, mon mari n'est pas chrétien, je divorce. Enfin, vous voyez, des gens, ça arrive ça. Hein? Moi, je le souviens, je dis, non, n'abandonnez pas votre mari parce que c'est un incroyant. Chercher à rester avec lui, surtout quand il y a des enfants et tout, quand même, vous rendez compte. Mais il y a tous les cas de figure, c'est un sujet compliqué. Mais Paul comprend aussi que ces mariages peuvent ne pas durer. Est-ce que ça peut arriver que ces mariages ne marchent pas? Mais c'est évident, lorsqu'un homme trompe sa femme, lorsque l'incroyant est abominable, il faut bien comprendre. Vous savez, moi j'ai entendu à une pastorale, il y avait un pasteur, un homme tapait sa femme. C'était ce cas de figure. C'est-à-dire qu'une femme s'était convertie et son mari l'a tapée. Il a tapé fort. Et elle a dit, écoutez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mon mari? J'ai dit, oui, il faut que vous restiez avec votre mari. Il a vu que le premier verset, le gars, le pasteur. Il faut rester avec votre mari. Et elle est revenue comme ça, ça a duré un an ou deux. Il faut rester avec votre mari, il faut le gagner. Et un jour, il l'a tué. C'est le pasteur qui l'a raconté à une convention. Et je crois qu'il faut gagner, mais ça peut arriver. La suite, on l'a lu, vous le lirez, on l'a lu déjà. C'est qu'une femme non-croyante soit obligée de quitter son mari à cause de la violence, de l'infidélité, de l'adultère. Jésus le dit, à cause de l'infidélité. Alors, Matthieu 5, c'est un texte qui a été mal interprété souvent. On parle d'adultère. Mais ce n'est pas que de l'adultère. C'est compliqué. De toute façon, c'est des choses très, très compliquées. Et je peux vous dire qu'on a besoin de la grâce de Dieu, du discernement et de la miséricorde. Croyez-moi du Seigneur. Matthieu 5, 32, c'est dans le Sermon sur la montagne. C'est vraiment, vraiment compliqué cette affaire. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause, qu'est-ce que vous avez ? D'adultère ou d'infidélité ? D'infidélité. Il n'y a pas que l'adultère. Il peut y avoir plein de comportements d'infidélité, pas forcément l'adultère. L'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme adultère, une femme répudiée, commet un adultère. Là aussi, c'est des choses archi compliquées. On ne va pas en parler ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais on peut en reparler une autre fois. Le mariage, le remariage des divorcés. Vous savez, moi, je me suis posé beaucoup de questions jusqu'au jour où j'étais à genoux en train de prier, parce qu'en plus, ça s'est présenté 15 jours après. Vous savez, quand Jésus a été vers la femme adultère, la samaritaine, elle avait été mariée combien de fois ? 5 fois. C'est vraiment... Et elle vivait avec un autre. Donc, elle n'aurait pas fait la démarche. Mais c'est Jésus qui fait la démarche vers elle. Vous êtes d'accord ? Pourquoi il a fait la démarche ? Pourquoi Jésus avec cette femme ? Pour la détruire, pour la maudire, pour la bénir ? Il veut la bénir. Et quand elle comprend que Jésus peut lui donner de l'eau vive, et Jésus lui dit, appelle ton mari. Et Jésus lui dit, et lui, mais c'est pas mon mari. Et Jésus lui dit, oui, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est la preuve qu'il faut se marier. Donc Jésus veut la bénir, mais il faut qu'elle mette sa vie en règle. Vous êtes d'accord avec moi ? Si vous relisez le chapitre, vous verrez que c'est tout simple. Appelle ton mari. Il fallait qu'elle mette sa vie en règle. Parce que pour être béni, il faut mettre sa vie en règle. Et vous savez que moi, 15 jours après, il y a un monsieur qui arrive, il était tétanisé. Et l'après-midi, il voulait me voir. Moi, j'étais fatigué, il me dit, je veux vous voir. C'était un directeur d'un hôtel. Il avait été marié 5 fois aussi. Pareil, le même cas de figure. Il avait été touché par la prédication. Et puis, dans le bureau, il me dit, il est là, il pleure, il me dit, monsieur, est-ce que Dieu peut me parler ? Il avait eu 13 gosses, avec 5 femmes différentes, dans 5 pays différents, parce qu'il était directeur d'hôtel, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et tout son salaire, il le payait à des pensions alimentaires, tout son salaire. Et il me dit, monsieur, mais il était pétrifié, est-ce que Dieu peut me pardonner ? Ah, je dis, vous faites penser à quelqu'un dans la Bible ? Ben, c'est une femme, c'est comme vous pareil. Elle a eu 5 maris. Il se jette dans mes bras, mais comme un gosse. Et il se met à pleurer. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il a demandé pardon à toutes ses femmes. Il leur a demandé pardon à tous ses enfants. Et il s'est converti. Et je peux vous dire que cet homme, il est béni. C'est pour ça que tous ces cas de figure, c'est compliqué, chaque cas est différent. Mais une chose est sûre, c'est que quel que soit le péché dans lequel on est tombé, Dieu pardonne. Dieu restaure, mais il faut obéir. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Et on voit bien, il faut lire les choses. Moi, vous savez, je me suis arrêté à l'école en 4e. Mais quand je me suis converti, je ne suis pas instruit. Du tout. Mais j'ai lu la Bible et j'ai compris ces choses qui se coulent du bon sens. Qu'il faut chercher à sauver son couple si le mari n'est pas converti, ne se convertit pas. Mais après, si le couple est en danger, eh bien, il vaut mieux se séparer. C'est exactement ce qui est écrit. Alors, on verra la prochaine fois le problème de la circoncision, tout ça. Mais le verset 14, parce que là aussi, j'en ai entendu des âneries depuis que je suis pasteur. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Bon là, n'oubliez pas qu'on est dans le cadre aussi des relations sexuelles. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Un jour, il y a un monsieur qui arrive à l'église, tout content. Il dit, monsieur Hugo, je suis heureux parce que je ne suis pas chrétien, mais je suis sauvé. Ah, il dit, ah bon, c'est mot pour mot. Ah bon, j'ai dit, vous avez vu ça ouf ? Ah, il me dit, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai lu dans les Corinthiens. Que le mari non-croyant, il est sanctifié par sa femme. Donc, moi, je suis sauvé. Il était tout content, vraiment. J'ai dit, écoutez, je vais vous rassurer, vous n'êtes pas sauvé. Et il utilisait ce verset, vous voyez comment on peut être tordu quand même, pour dire, à partir du moment où moi, je suis avec une non-croyante, notre maison, elle est sanctifiée. Donc, je suis sauvé. » Et j'ai dit, « Oui, vous avez vu ce qui est écrit ? De deux dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. » Et j'ai dit, « Ça, c'est dans le cadre des relations intimes. » C'est sûr qu'une femme qui est chrétienne, son père, c'est Jésus, c'est Dieu. Quand elle reste avec son mari, qui est un croyant, son père, c'est le diable. D'accord ? Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, quand elle couche avec son mari qui est inconverti, elle pourrait se dire, je suis souillée à cause de cet homme qui est dans le péché. Mais non, Dieu dit que lorsqu'un chrétien est sanctifié dans sa maison, son mari et ses enfants, bénis soit le Seigneur, sont sanctifiés. Alléluia. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. C'est au niveau des relations intimes. Mais pour qu'un mari soit sauvé, il faut qu'il se convertisse. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand Jésus dit à Philippe, au geôlier de Philippe, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, vous comprenez bien qu'il faudra que toute sa famille se convertisse. Mais ça, est-ce que ça va de soi ? Quelqu'un m'a dit, ah, mais non, moi si ma famille ne se convertit pas, elle sera sauvée parce que Dieu m'a fait la promesse, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Non, si Dieu vous fait la promesse de ce verset, laissez-moi vous dire que toute votre famille se repentira et se convertira. Vous voyez ? Alors, ce sont des choses qu'il faut expliquer. En même temps, c'est important. Bon, alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais mes frères et sœurs, soyons sérieux avec la parole. J'honorerai celui qui m'honore. Et le plus important, c'est d'avoir une vraie piété, de développer une vraie piété, chacun pour soi. Que t'importent les autres, toi, suis-moi. Mais ça peut se passer. Il y a des couples, le mari est inconverti. Dans l'église, on en a plusieurs. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Moi, je connais plusieurs couples dans l'église. Le mari est croyant ou la femme est croyante. Le conjoint ne l'est pas. Mais ça se passe bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'intelligence. Et que c'est écrit que chacun reste, si possible, dans l'état où il était, comme il a été appelé. Voilà. Et on peut arriver à avoir de véritables bénédictions. Moi, je connais plusieurs couples. D'ailleurs, il y en a ici. Et je sais que c'est une bénédiction pour eux de continuer à rendre un bon témoignage. Alléluia. Hein, ouais. Donc notre souci, il est là. Mes frères et sœurs, quand on va étudier tous les problèmes de l'église de Corinthe, eh bien, vous verrez que tout ressort de la vie et qu'il faut savoir poser des questions pour ceux qui concernent les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Donc il faut savoir parler et poser des questions, aller voir les anciens. Dans l'église, il y a des frères qui peuvent vous expliquer certaines choses et c'est bien d'en parler et de prier ensemble. Alléluia. Ben ouais, c'est comme ça que les choses avancent.